Gameblogueurs, gameblogueuses, salut à toutes et à tous, bienvenue sur gameblog.fr pour un nouveau podcast de la rédaction. Avec moi aujourd'hui, Julien.
Bonjour.
Julo.
Salut.
Et un nouveau. Salut Rudy, comment ça va?
Bonjour à tout le monde, oui, ça va, merci.
Alors, La passe de 3.
Tu
connaissais les 4 à la suite, maintenant on fait les 3 à la suite. Pourquoi? Bah parce que depuis 3 semaines, des nouveaux visages. Il y a eu Johnny One, il y a eu Olivier Roy du Bocal, et maintenant il y a Rudy, formidable, bienvenue.
Alors Rudy, merci. Qu'est-ce que tu fais chez Gameblog?
Alors qu'est-ce que je fais?
Est-ce que c'est un peu comme Gaston Lagaffe, t'es arrivé, t'avais vu la lumière et du coup t'as eu un job ou non?
T'as des particularités. J'ai une petite particularité assez sympathique et donc je m'occupe des jeux japonais donc chez Gameblog.
Tu peux le redire en regardant la caméra, j'ai une petite particularité assez sympathique et faire un clin d'œil en même temps pour les premiers.
Alors petite particularité assez sympathique. Je m'occupe donc des jeux japonais ici, donc des jeux en import, et vous avez déjà pu me voir en fait deux fois sur les vidéos tests donc de Dragon Quest Builder et aussi d'Attack on Titan.
On a pu te lire aussi, effectivement.
Et tu t'occupes de ces tests import pour plein de raisons, dont l'une qui est importante, c'est que tu parles couramment japonais aussi, quoi.
Effectivement, voilà. Je parle couramment japonais. J'ai eu la chance en fait de vivre un an au Japon, donc qui est une expérience magique. Et voilà, avec cette passion en fait du japonais et du jeu vidéo, je me suis dit, quelle meilleure place que Gameblog justement pour pouvoir en faire profiter à tout le monde.
On connaît des gens qui ont vécu un an au Japon par contre, pour parler japonais.
Je travaillais en anglais, moi.
Ouais, ça va pas aider, mais je parlais japonais quand même.
Tu dis ça comme si j'étais un gros nul.
Bah ouais, t'es un gros nul, ouais.
Ok, d'accord.
Exactement, t'es un gros nul, Julo. Alors, Rudy, ta présence n'est pas anodine dans ce podcast parce que nous avons décidé aujourd'hui de faire un petit podcast sur l'année 2016. Deux points. Je le dis comme ça, texto. Deux points. Est-ce que 2016, ce serait pas l'année du Japon? Et pour aborder un peu ce thème, nous allons évidemment revenir un peu sur les dernières années du jeu vidéo japonais dans sa globalité, faire un petit bilan de la génération précédente qui finalement s'est peut-être un peu étendue sur le début de la nouvelle génération de consoles PS4 et Xbox One. Ensuite, eh bien, nous aborderons un petit peu aussi le jeu PC parce qu'il y a des particularités avec le jeu PC et le jeu japonais. Et puis nous répondrons évidemment à la question en elle-même, 2016 est-elle vraiment l'année du Japon? Est-ce que le Japon est de retour? D'abord, parlons un peu de l'époque 360 et PS3.
T'as toujours autre chose à dire. Bah oui, il y a quand même des choses, c'est ce qu'on s'était dit, importantes à resituer. Déjà, un, si vous écoutez les podcasts, vous êtes des fidèles des podcasts, vous savez que depuis maintenant de longs mois, voire saisons, on était vraiment dans l'actualité. Et vous aurez remarqué que depuis quelques semaines, à l'image de tous les nouveaux rendez-vous qui arrivent sur Gameblog, on vous a écouté et qu'on vous fournit aussi, entre des podcasts d'actualité, des podcasts thématiques. C'est important à le souligner. Là, c'est le Japon. La dernière fois, c'était sur les jeux automobiles, les voitures. Et il y en aura d'autres. Pas toutes les semaines, parce que l'actualité est très importante et que vous êtes très nombreux à apprécier les podcasts d'actualité. Mais c'est une nouvelle fois la preuve que Gameblog vous écoute et essaye de vous apporter au maximum des choses qui vous plaisent. C'est aussi pourquoi on a intégré, si on fait ce podcast sur le Japon, c'est parce qu'il y a clairement une énorme volonté au sein de la rédaction de Gameblog j'ai pas envie de vous dire se réintéresser à l'actualité japonaise parce qu'elle a jamais quitté les colonnes de Gameblog, mais c'est vrai, c'est d'accentuer encore un peu cette présence. Vous étiez très nombreux à vouloir des tests import, très nombreux à vouloir avoir de l'actualité sur le Japon en général, et donc effectivement grâce à ce recrutement, vous l'avez annoncé et on est ravis de pouvoir accueillir Rudy qui va entre autres, puisqu'il y a Johnny One aussi qui va faire des tests sur des jeux un peu plus barrés du monde du Japon.
Et c'est pas tout. En plus, parce qu'il n'y a pas que deux qui vont nous faire des trucs concernant le Japon, mon cher Julien.
Ah bah ça, c'était sur la partie test.
Ouais.
Et effectivement, alors si vous êtes premium à partir de lundi et si vous n'êtes pas premium depuis lundi, vous avez pu voir aussi la première chronique de notre correspondant au Japon, Axel Riffard, qui désormais, une fois par mois, dans une tribune qui s'appelle Inside Japan, va revenir vraiment sur le jeu vidéo vu de l'intérieur, puisque lui, il vit maintenant depuis de nombreuses années au Japon. Il est développeur dans des studios japonais et il va nous faire part de son expérience au contact vraiment des développeurs, non pas parfois des fantasmes ou des idées reçues sur le Japon, mais de véritablement comment ça se passe. Et son premier papier est vraiment intéressant, je vous invite à le lire si ce n'est pas encore le cas, sur ce qu'on appelle les workflows, la manière de travailler au sein des équipes japonaises. On en reviendra, je l'évoquerai un petit peu au cours de ce podcast-là, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis quelques temps et qui font aussi, ça fait partie de la réponse, que le Japon est en train de revenir.
Très bien, et bien on va pouvoir commencer alors ce podcast comme on a envie. D'abord on va écouter un petit peu de musique.
La bonne musique, bien sûr.
de la musique qui donne la pêche. En tout cas, à ceux qui aiment ça.
Bon, ça moi, c'est pour l'époque Dance Dance Revolution, etc.
Ouais, ouais,
bah, des rythmes trépidants.
Arrête, c'est pas Butterfly. Hein.
Bah, je l'avais fait pour un autre podcast, Butterfly. Je me rappelle, je sais plus lequel. Qui est un peu mon préféré.
Ouais. Que de souvenirs.
Donc là, on se dit qu'avec la musique de Touch My Katamari, ça pourrait bien commencer ce podcast. Où on va d'abord, évidemment, faire le bilan déjà des années PS3 360 du jeu vidéo japonais qui n'ont pas été forcément les plus glorieuses
c'est pas fameux.
De tout le Japon qui jusqu'ici avait l'habitude de dominer un petit peu. Et là, ça a fait.
C'était globalement hormis pour des hardcore etc c'était de la merde enfin faut appeler un chat un chat.
Non on est bien d'accord il y avait
c'était
absolument
pathétique.
Rien
c'était de pour nous qui sommes trentenaires pour toutes les personnes qui ont connu le jeu vidéo dans son âge d'or on va dire comme ça des années 80 90 2000 le Japon c'était la terre promise la mecque du jeu vidéo c'était un rêve c'était les meilleurs développeurs les meilleures séries ils foutaient des baffes à tout le monde les occidentaux c'était de la rigolade et puis sur la génération PS3 360 eh ben, ils se sont pris eux les claques qu'ils avaient, les mandales qu'ils donnaient jusqu'à présent ça continue encore un peu hein. C'est pas totalement remis
la première des raisons à ça à mon avis c'est la transformation des attentes et donc du marché japonais qui s'est focalisé énormément sur le mobile dans ces années-là et aspiré à tous les débuts de projets qu'il aurait pu y avoir à l'époque sur console pouvaient se retrouver sur des jeux mobiles et ça a été le cas quasiment et c'est un peu encore le cas hein, d'ailleurs
un peu même beaucoup
quand tu vois ce qui se passe avec Konami aujourd'hui c'est exactement ça c'est-à-dire que Konami ils ont restructuré et réorienté leur business totalement vers le mobile et le patchy slow et tout ça donc est-ce qu'on peut parler pour reprendre la phrase du thème d'un retour du Japon moi je dirais d'un retour de certains développeurs japonais parce que il y en a
non mais de l'hégémonie japonaise
et sur le plan créatif il y a un truc qu'on pourra pas enlever au jeu occidental non plus c'est que depuis cette génération PS3 160 ils se sont nettement améliorés par rapport à cette époque bénie du Japon où en face on avait des jeux occidentaux qui tenaient pas la route quoi.
Mais moi je trouve que le Japon a évidemment toujours été moteur sur les jeux mobiles et quand je dis mobile je parle même des consoles portables parce qu'aujourd'hui si on regarde bien tous les développeurs occidentaux travail sur smartphone, sur tablette, les Japonais aussi. Par contre, tu retrouves vraiment quasiment plus ou 1% de production des Occidentaux sur console portable, que ce soit
sauf
DS, 3DS ou PS Vita. Il n'y a rien, il n'y a plus que des jeux japonais. Donc là-dessus, ok. Mais moi, je trouve que l'effondrement du jeu vidéo japonais, il s'est fait sur les AAA et les AA. C'est-à-dire que c'est là où il y a toujours eu des AAA japonais, mais ils n'étaient pas bons, ils n'étaient plus à la hauteur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas réussi à accompagner l'explosion de moyens humains, financiers et technologiques que nécessitait le passage de la génération PS2 à PS3, Xbox à Xbox 360.
Alors là, permets-moi de te contredire justement, parce qu'au contraire, en fait, effectivement, sur les PS3 et 360, on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait plus beaucoup de JRPG. On peut peut-être citer Final Fantasy XIII, 1, 2, 3, Blue Dragon et Tales of Vesperia, par exemple, qui étaient ensuite, sur la demande en plus de Microsoft, sortis sur 360. Effectivement, Lost Odyssey, sinon.
Très bon.
Mais après, ce shift en fait des AAA et AA est arrivé sur console portable. Je pense par exemple à Dragon Quest 9, c'est la première fois qu'on retrouvait un chiffre justement, un titre majeur de la saga sur DS pour le coup. Ou sinon encore Metal Gear Solid Peace Walker, qui était censé être Metal Gear Solid 5 justement.
Mais cela dit, entre ce que j'ai dit juste avant et ce qu'a dit Julien là, je pense que les deux sont vrais. Hein. C'est deux choses qui s'additionnent.
Oui, c'est ça.
Il y a effectivement les jeux consoles se sont fait siphonner par le marché. Mobile, mais il y avait toujours des sorties, effectivement. Et sur les sorties qu'il y avait,
c'était pas bon.
Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait moins de sorties. Hein. Les JRPG sont sortis beaucoup moins sur console que sur la génération d'avant, quoi.
Non, effectivement.
C'est deux raisons qui s'additionnent, quoi.
Mais tout ça s'explique vraiment. Alors, vous lirez l'excellent papier d'Axel. Je vais en donner quelques clés pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais il est vraiment beaucoup plus riche dans l'article en lui-même. Mais c'est des raisons en fait fondamentalement, je me rappelle quand on allait au TGS ensemble, Julo, ouais. on rencontrait certains de nos homologues confrères de la presse japonaise et d'autres développeurs, et on a souvent évoqué ce sujet, genre dès 2009, genre là, ah, les Japonais, vous n'arrivez plus trop à suivre, comment vous l'expliquez-vous qu'ils vivaient au quotidien? Et à chaque fois, c'était oh oui, mais... déjà ils n'étaient pas si conscients que ça,
non.
Ça a mis du temps à qu'ils percuter, comprennent, ouais. Ou en tout cas qu'ils l'acceptent de le dire, et, de ce qu'ils étaient en train de se passer. Et en fait, c'est des choses qui vont paraître extrêmement bêtes et méchantes. C'est-à-dire que, par le passé, jusqu'à la PS2, faire un jeu d'ampleur, fallait une équipe d'une, allez, trentaine à une centaine maximum de personnes. Mmh. C'est déjà une belle équipe, mais c'était suffisant pour faire un jeu au top de la qualité. Avec des moteurs qui, mais dans l'écrasante majorité, étaient des moteurs internes.
Créés maison.
Mmh. Donc on en maîtrise tous les aspects, on le fait. Alors oui, ça prend un peu de temps au début, mais enfin bon, on maîtrise tout. Et puis, quand on est passé à la PS3 et la Xbox 360, ces règles-là ont sauté, totalement sauté. Puisque pour faire un jeu à la hauteur, il fallait plutôt que ton équipe passe, non pas de 40 à 100 personnes, mais de 300 à 1000 personnes. Sur des laps de temps raisonnablement longs, avec des dépenses extrêmement chères, et que si tu veux rentabiliser, il faut que ton moteur, en plus, te serve sur plusieurs jeux, souvent en parallèle au sein même de la société. C'est ce qui a fait le succès de l'Unreal Engine, etc. Mmh. Et on a vu sur cette génération, d'ailleurs on l'a tous constaté, ça n'existait pas avant, l'émergence du middleware, et du middleware des Unity, des Unreal, qu'on voyait les logos, boum, apparaître, même parfois sur certains jeux japonais.
Il y a eu Underwear pendant un moment aussi, hein, sur PS2, si
oui,
je me rappelle.
C'était le début, mais ça s'est vite calmé là-dessus. Et le problème, c'est que autant les Occidentaux ont eu cette capacité à pouvoir embaucher avec plein de choses, hein, le marché du travail, plus flexible qu'au Japon, où généralement, c'est une carrière à vie, le coût du travail. Moi, j'en parlais avec des développeurs, avec des éditeurs, le coût d'un dev haut placé, enfin une tête à Montréal par exemple, donc là je vais dire clairement du côté de chez Ubi, n'est pas du tout le même coût, grâce entre autres à des remises d'impôts, etc., que le coût de la même personne qui viendrait travailler au Japon. Plus, encore une fois des trucs tout bêtes, hein, le coût de l'immobilier, idem, avoir un open space de je sais pas combien de milliers de mètres carrés comme ils peuvent avoir chez Ubi, chez EA et compagnie, versus la place beaucoup plus limitée que tu peux avoir au Japon dans les tours à Tokyo, etc., où le prix même du mètre carré n'a rien à voir, fait que pour la même personne, avec la même intelligence, avec le même savoir, d'ores et déjà ton coût de développement a été multiplié par 2 à 3. Donc forcément 2 à 3, bah quelque part tu fais 2 à 3 personnes en moins.
Ça, c'est les raisons matérielles, et puis il y a eu aussi des raisons organisationnelles, c'est-à-dire que avec l'arrivée des moteurs et des équipes grandissantes, il fallait trouver une espèce de nouvelle organisation que les équipes japonaises, apparemment, ça encore, on nous le disait quand on posait la question au Japon à nos homologues ou à des développeurs, c'est qu'ils n'arrivaient pas à travailler de la bonne façon pour gérer des équipes aussi grandes, quoi.
Exactement.
Voilà.
Et il y a une autre raison très importante, et qui paraît toute bête, c'est la maîtrise de l'anglais. Quand les Unreal, les Unity ont explosé, ça permet de gagner du temps énorme, puisque ce sont des moteurs qui permettent de te faire en plus, de plus en plus, tu fais le développement pour une machine, puis après le portage est assez simple, il demande un peu de travail, mais enfin c'est assez simple, ok, très bien, mais enfin ça arrive quand même avec des docs comme ça, et bah, comme c'est des moteurs qui ne sont pas faits spécifiquement pour des besoins, parfois il y a des carences, et donc tu dois contacter le service consommateur utilisateur de Unity, de Unreal, pour leur dire, les gars, je comprends pas, je sais pas comment on fait dans votre truc, ok, on va t'aider, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Tous ces mecs-là parlent en anglais, communiquent sur des forums de développeurs en anglais, s'entraident entre eux en anglais. On le sait, le niveau malheureusement d'anglais des Japonais, c'est pas ça. Et donc,
c'est réservé à une certaine élite, je crois, l'apprentissage de l'anglais, la maîtrise de l'anglais. Il faut
alors là,
faire
tu m'en demandes
trop. Non, pas du tout. C'est pas réservé à une certaine élite, c'est simplement, effectivement.
C'est pas dans leurs études.
Exactement, et qui n'a
général.
Pas ressenti réellement le besoin, en fait, de s'exporter. Ou
alors, il y a ça et des études scientifiques, très clairement, qui disent que, dû à. Ça, c'est un petit point scientifique intéressant, c'est rigolo. Dû au fait que la langue japonaise utilise un nombre assez restreint restreint de son par rapport à nous. Il y a une partie, je sais plus laquelle, gauche ou droite, du cerveau. Nous, on, notre langage est sur les deux parties, et les Japonais sont très en déséquilibre sur une de ces deux parties, ce qui fait que ils ont beaucoup plus de mal physiquement, enfin je veux dire niveau,
c'est intéressant, hein.
Que à apprendre tant de nouveaux sons et à comprendre tant de nouveaux sons, à les déceler, etc.
Voilà. D'accord, ça j'ignorais complètement ce truc-là.
Et c'est parce qu'en fait les sons japonais sont très restreints par rapport à ceux qu'on utilise par exemple en France. Nous par exemple le R,
le fameux R, ils sont incapables de le faire par exemple.
Voilà, mais même en italien, si tu les Italiens peuvent pas prononcer le U, tu vois, ils disent tous OU, ils n'arrivent pas à le faire autrement. Mais ils peuvent se forcer, y arriver mieux. Apparemment le cerveau japonais, du fait de l'utilisation de cette langue,
a été façonné
d'une certaine manière, qui fait que si tu apprends pas très très jeune, c'est très difficile par la suite.
Vous voyez quand même comment émerge doucement mais sûrement plein de petits facteurs qui a l'air tout bête comme ça, mais qui additionnés font une friction qui empêche les choses.
Et oui, mais il y a quand même eu des exceptions.
Attends, c'est pas fini pour bien comprendre les choses.
Dis-moi plus.
Là, on en arrivait à la barrière de la langue. Donc, imaginons, on est Square Enix. Bonjour, je suis Square Enix. J'ai bien vu que travailler sur Unreal Engine permet de gagner du temps, etc. Les cocos, donc chef de projet, bonjour les cocos, il a ses 60 mecs, 100 mecs devant lui, là, développeur. On va passer sur Unreal, les gars. Donc voilà la doc, comme ça. Je veux dire, enfin, il n'y a pas de secret. Au début, tu ouvres le truc, puis tu lis, puis tu te documentes. Sauf que se documenter pour eux, méga long, beaucoup plus long. Donc beaucoup de développeurs et d'éditeurs se sont dit, le temps que mes équipes intègrent comment travailler sur Unreal, mais pourquoi on ne prendrait pas ce temps pour faire nos propres moteurs ? Alors on va faire ça. Et vous l'avez vu, il y a plein de moteurs maison qui ont émergé.
Capcom, par exemple, on a fait énormément des pour éditeurs. Lost Planet, Resident Evil.
Konami.
Ouais,
Konami
le Pantare, aussi. Par exemple. Voilà. Pantare qui disparaît. Le Fox Engine, qui doucement va disparaître. Square Enix, le Luminous Engine, qui disparaît. Mais regarde, je reprends mon exemple de Square. Square, ils ont été parmi les premiers à essayer l'utilisation de l'Unreal Engine. Et en même temps, ils faisaient le Luminous. Et ça n'a pas du tout marché. Parce qu'en interne, les mecs, ils ont pataugé, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, et ça les a confortés dans leur idée, ouais, on va faire notre moteur à nous. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont perdu du temps, de l'énergie, et que quand arrive le moment où tu dois sous-traiter aussi, parce que pareil, un truc qu'on ignore, certains ignorent, c'est que tous les développeurs occidentaux, des Ubi, des Quantic Dream, et des Naughty Dog, etc., on parle toujours de leurs équipes. Genre on dit Naughty Dog, ils sont pas très nombreux. Quantic Dream, c'est une petite équipe.
Mais on oublie de citer tous les gens qu'ils embauchent en Chine, dans les pays de l'Est pour faire une chaise.
Une chaise, une table, un tableau, d'ailleurs parfois repris. tout ça, c'est généralement même pas fait chez eux. Ils sous-traitent. Mais les Japonais, ils font pas ça. Ou très peu. Mais sauf que si tu peux sous-traiter uniquement...
C'est la fierté japonaise qui fait ça.
Je serais incapable.
Genre non, je ne sous-traiterai pas cette chaise.
Peut-être que oui, ou de l'organisation. Et le problème, c'est que si tu fais pas ça, ça demande beaucoup de temps. Et si tu veux le faire, il faut que la boîte avec qui tu travailles travaille sur le même moteur que toi. Parce que sinon, les data, elles marchent pas. Mais sauf que si tu travailles sur un moteur en interne, tu vas pas filer ton moteur en interne où les mecs vont devoir apprendre exactement comment fonctionne ton moteur à toi. Si vous faites un peu d'internet, si vous avez un site internet, etc., vous savez très bien que l'un des succès d'un WordPress, par exemple, c'est que tout le monde arrive, bim, WordPress, ça marche pareil, et puis tu changes des trucs. Par exemple, nous, tout est fait maison, notre logiciel de Gameblog, etc. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, on doit passer des heures à lui expliquer. Alors, notre admin, ça marche comme ça,
je l'ai vécu, c'est vrai.
Voilà. Et c'est exactement la même chose avec les moteurs graphiques. Et je vais donner un exemple très concret. Là, Square, après avoir fait le Luminous, après avoir galéré comme des oufs, FF15 sera très probablement le seul et unique projet utilisant le Luminous. Kingdom Hearts devait l'être. Il passe sur Unreal.
FF7 Remake.
FF7 Remake sur Unreal. Pourquoi ? Parce que FF7 Remake n'est pas fait que chez Square. Ça y est, shift mental, etc. Square qui travaille beaucoup avec des occidentaux et qui s'est vachement renseigné sur comment ils travaillent. Et FF7 Remake va être fait par plein de studios, dont par exemple CyberConnect 2. Et CyberConnect 2, ils bossent sur quoi ? Sur Unreal. Et donc, pour que ça puisse communiquer et aller vite, on prend le dénominateur commun le plus simple et qui est de qualité. Et donc, on travaille sur du middleware.
D'accord.
Mais sauf qu'il a fallu 4-5 ans pour le comprendre.
Mais alors justement, on parle.
J'aimerais ajouter un dernier tout petit truc.
Ok, d'accord, mais c'est la dernière fois.
Non, mais il y a peut-être aussi une autre explication. C'est vrai, je trouve que le jeu japonais était plus universel avant, et il y a tout un tas d'éditeurs et de développeurs japonais qui se sont refermés sur le côté, tu sais, ce qu'on appelle les jeux entre guillemets typiquement japonais, mm-hmm. avec de la drague, des seins qui font boum boum,
bon, on en parlera tout à l'heure,
des concepts complètement soit débiles, soit incompatibles avec nos,
notre culture
Summer, voilà, quand on parle de Dead or Alive Extreme, on parle aussi de la condition de la femme, machin, etc. Ce qui au Japon leur passe totalement au-dessus, c'est presque culturel, et faut connaître le Japon et les Japonais pour comprendre que c'est pas forcément totalement misogyne, etc. Mais enfin bref, c'est aussi un type de jeu vidéo qui s'est un peu renfermé sur lui-même. Alors j'exclus Square Enix, Capcom, etc., qui se sont totalement internationalisés, on va dire, parce qu'ils ont aussi des productions à eux bien japonaises, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toute une frange du jeu japonais qui est devenu une espèce de niche qui ne peut marcher véritablement que sur son marché.
Qu'avec
à lui.
Niche, on pensera Nippon Ichi par exemple.
Voilà. Et il y a des super trucs, hein. Il y a des super trucs, hein. Et dont certains qui sortent chez nous, genre Danganronpa, les comment s'appelle les jeux d'enquête là. Visual novel. Merde.
Ah, les 999, non ?
Voilà, les trucs comme ça, voilà, la série 999, etc. Qui a eu bon, tous ces trucs-là sortent un peu en catimini chez nous, c'est presque un miracle, je trouve. Mais t'as effectivement quelques gros éditeurs qui sont internationalisés, et toute une autre partie qui fait des jeux japonais pour les Japonais, sur le marché japonais, quoi. Voilà.
Et ça, c'est symptomatique du pays.
Ce qui est le cas à l'époque.
Des derniers pays au monde, hein, qui globalement quand même a une maîtrise de l'immigration extrêmement stricte, qui ne veut pas se métisser clairement, et qui veut pas trop s'ouvrir au reste du monde, hein, fondamentalement. Après, on aime, on n'aime pas, etc. Bon, c'est un avantage, c'est que c'est un pays vraiment qu'on peut observer comme ça, et on voit que c'est leur culture qui évolue. Mais du coup, c'est pas très ouvert, et forcément, ça fait des frictions très fortes dans plein de domaines de la vie, de la culture, de l'industrie, et même du jeu vidéo.
Ah bah dans le business, hein, tous ceux qui ont essayé de faire du business avec les Japonais dans les années où ça a commencé, à 70, 80, etc., savaient pas tout un tas de trucs. Et c'est vrai que rien que dans la façon de travailler et de communiquer professionnellement, en fait, tu comprends pas.
C'est ça,
moi,
c'est
je me rappelle, mon papa travaillait dans l'import-export de matériel IFI, donc il a beaucoup travaillé avec les Japonais. Et souvent, je me rappelle, quand on était petit, ils disaient ouais, ils te disent oui, puis en fait, il n'y a rien qui se passe.
Jamais non.
T'as pas compris le signe de, en fait, quand ils ont dit que ça allait être compliqué, ça veut dire non, en fait, ou ce genre de truc, tu vois. Bon, alors ça, c'est pareil, c'est vrai que c'est le côté insulaire du Japon, quoi, un peu refermé sur lui-même. Ça a beaucoup évolué quand même, hein, quand tu vois Square Enix, effectivement, Capcom et d'autres.
Vois,
puis même
si,
Sony.
Si on prend ces deux exemples, Square Enix et Capcom, qui effectivement sont les plus ouverts, qui ont intégré d'ailleurs et racheté des sociétés occidentales, pour plein de raisons, dont les observer et voir comment ils faisaient eux, bah, tu vois que chez Square Enix, il y avait le Luminous. Bon, le Luminous, globalement, ça y est, il est enterré là. Une fois qu'FF15 est sorti, t'en entendras plus jamais parler, probablement. Et du côté de Capcom, il y avait le Pantarei. Et vous avez vu que les derniers jeux Capcom annoncés, boum, gros logo Unreal Engine. Et que le Pantarei, on l'a plus entendu, et qu'il est sur un seul titre, Deep Down, dont de toute manière le truc est en
a l'air d'être enfoui
complètement
Deep Down, quoi.
Voilà, donc
il a été réenregistré, donc il est sûrement vivant,
mais non, mais il sortira, mais ce serait même pas étonnant qu'il sorte avec un nouveau moteur, tu vois. Ou s'il sort avec le Pantarei, bah le Pantarei, merci, au revoir, quoi.
Ouais. Alors je voulais revenir sur les exceptions, hein, de la génération précédente, qui sont un petit peu même étalées sur celle qui vient de débuter. Ça fait déjà 2 ans, mais bon, il faut considérer qu'elle débute. Des jeux comme Bloodborne, MGS, Dark Souls, FF14, les jeux Platinum Games aussi. Ah, qu'est-ce qui fait que ces exceptions-là existent, justement, par rapport aux autres productions qui ont du mal à exploser, on va dire, à l'échelle internationale?
Je pense qu'il faut prendre les cas les uns après les autres, mais par exemple, le dernier que tu citais, c'est Platinum Games, parce que Platinum Games, pour moi, c'est des gens qui font justement les jeux de la génération avant que ça s'écroule.
C'est ça.
C'est le jeu vidéo qu'on a joué sur la période 32 bits, en fait, Platinum Games. Et c'est ce côté revival, mais avec des graphismes
c'est
d'aujourd'hui.
C'est d'ailleurs
parce que
pas beaucoup plus beau. Hein.
Et oui, ouais, bah, mais bon, quand même. Et
de manière générale,
c'est spectaculaire, mais pas très beau.
Il développe sur plusieurs générations,
voilà,
en même temps.
Ça, hein. Ça, plus le côté, comment dire, pas punk, mais un peu.
Un peu chien fou,
un peu fou, ouais, voilà. Extravagant, voilà, c'est ça. Et c'est des jeux qui nous font kiffer, nous, qui avons connu justement et qui avons connu le jeu vidéo de cette époque-là et regretté que sur la génération PS3, il est un peu disparu quoi. Donc Platinum Games, c'est un peu ce revival là, je trouve.
C'est un revival qui malheureusement ne rapporte pas beaucoup, ce qu'on voit bien à chaque fois, les chiffres de vente, que ce soit justement pour du Mad World, du Vanquish ou les Bayonetta 1.
Mais pourtant ils jouissent
succès d'estime, mais pourtant
ils jouissent quand même d'une réputation au top quoi, y compris chez les studios qui leur confient des jeux quoi.
C'est vrai.
C'est pour ça que ça se multiplie
quand Kojima a décidé d'aller vers eux quand le projet Rising était en train de patauger. Il avait à mon avis toute l'attitude pour choisir, et il a choisi ce studio là malgré le fait que les jeux d'avant n'aient pas ultra fonctionné.
C'est vrai.
Donc c'est parce qu'ils jouissent d'une réputation au top quoi.
On le sait hein, ce n'est pas forcément la qualité qui fait le succès hein.
On
est bien d'accord,
parfois ça le fait
et tant mieux,
heureusement.
Et donc, pour revenir un petit peu à cette génération maintenant, on voit aussi qu'il y a encore des exceptions dans le jeu vidéo japonais, que ça recommence à revenir. Là, c'est début d'année par exemple, on peut noter qu'il y a FF5. Bon, Street Fighter 5, malgré son problème de jeu en kit, reste un jeu de baston qui a l'air quand même de plaire à l'échelle globale. Récemment, tu as testé pour nous, Rudy, Attack on Titan, Dragon Quest Builders, mais il va y avoir aussi les Yo-Kai Watch par exemple, qui va arriver en Occident, qui risque de faire pareil un sacré raz-de-marée, puisque c'est quand même les Level 5 qui s'est occupé notamment.
Level 5 aussi a fait des fours, mais en tout cas Yo-Kai Watch c'est leur filon du moment.
Mais c'est leur filon du moment au Japon justement. Quand on parlait de choses bien japonaises, Yo-Kai Watch, mais c'est un carton au Japon. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir les danses de Yo-Kai Watch, c'est complètement fou. Il y a des happenings en fait qui sont arrivés même,
qui sont géniaux.
Donc voilà, c'est vraiment à voir. En revanche, aux États-Unis,
ça prend pas encore
et on sait pas encore si ils vont, c'est pas
ça
si
vient d'être lancé
ou pas. Mais c'est vrai que c'est encore récent,
c'est encore récent. Il y a 3 Yo-Kai Watch qui sont sortis,
c'est extrêmement
voilà tard, là il ça fait longtemps hein, qu'ils prévoient de le sortir en Occident, donc aux États-Unis et en Europe, et ça sort seulement maintenant. Et c'est certainement parce que ils ont justement voulu mettre les petits plats dans les grands pour faire en sorte que le succès se réitère aussi chez nous. Avec le lancement synchronisé de la série. Donc chez nous c'est sur
Lui, je crois, non.
Non, c'est Boeing, non, je sais pas.
Je peux pas vous aider.
Enfin, il y a un deal avec une chaîne jeunesse pour sortir le dessin animé au même moment que va sortir le jeu, qui va être poussé au niveau marketing. Il va y avoir une gamme de jouets également, etc. Bref, ils essayent de tout faire pour reproduire le succès japonais, mais encore une fois, c'est pas sûr parce que Yo-Kai Watch s'est basé aussi sur un truc typiquement japonais, donc qui lui donne son titre, les yokai, donc
les esprits fantômes
et monstres du folklore japonais en fait, qui sont bien connus des japonais, beaucoup moins chez nous, mais voilà. Le côté collection, etc., va peut-être et le dessin animé permettent de faire fonctionner.
Évidemment, j'ai oublié de citer aussi les Naruto, le dernier Naruto qui est une tuerie absolue.
Ah bah Cyber Connect.
Oui, voilà. Le Dragon Ball Xenoverse qui, mine de rien, a fonctionné, même si c'est pas forcément le meilleur.
N'oubliez pas la lettre ouverte de Plume et Romain. Allez y souscrire si vous pensez comme eux, hein, que c'était une lettre ouverte dans laquelle vous demandiez à Bandai Namco, s'il vous plaît, mais même pas s'il vous plaît, fais,
non,
donne la responsabilité de tes licences, des Dragon Ball, etc. à CyberConnect 2, parce que merde quoi, ils savent se débrouiller eux.
Bah, moi, c'est essayé avec CyberConnect 2 dans la même veine qu'un Naruto.
Il existe une pétition là-dessus, parce que on pourra peut-être la lancer.
Bah écoute, vas-y. Je te regarde.
Suite à la lettre ouverte, on fait une pétition.
Pour le coup, il en existe une, pas forcément pour CyberConnect 2, mais en fait, c'était un fan de Dragon Ball qui, après avoir joué à Dragon
Raging
Ball
Blast, Raging 3.
Blast, exactement, le fan project.
Absolument, qui depuis 2011 se démène pour essayer de donner des idées à Bandai Namco. Il a rencontré à une Japan Expo Raging Blast 3, qu'il a lui-même redessiné, parce que Raging Blast 2 avait des graphismes
en 3D qui étaient.
Mais là on est dans le versus fighting, un peu comme à l'époque et tout ça. Là. Moi, j'aimerais bien un truc à la Naruto, quoi, vraiment.
Ouais, moi aussi. Mais plus pour Saint Seiya que pour Dragon Ball. Dragon Ball, c'est bon, on en a eu des bons jeux Dragon Ball, mais Saint Seiya,
il y a longtemps, c'était sur la GameCube, on a envie d'en voir
Tenkaichi et Tenkaichi Budokai était quand même super, et franchement c'est bon, Saint Seiya on a eu que de la merde,
c'est bon,
donc il est temps qu'on ait des bons trucs pour ça. Mais bref, on a ces jeux là donc qui ont une aura assez insolente aussi dans l'aura qu'ils peuvent avoir à l'échelle mondiale, mais ça fait encore des jeux qui sont un peu ancienne génération, j'ai envie de dire, à part Metal Gear et Bloodborne l'année dernière, c'est des jeux de
Pity qu'on aurait pu avoir.
Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, qui était le meilleur jeu Metacritic de 2015, si j'ai bien regardé les notes. Mais À part ces jeux-là, qu'est-ce qui fait vraiment next-gen aujourd'hui côté japonais?
Bah, FF15 quand même, ouais, mais a pas l'air
dégueu. Sorti, hein. Attention, qu'est sorti.
D'accord. Ah, qui est sorti qui fait next-gen japonais.
Ah oui.
Pas grand-chose.
Bah voilà.
Bah le dernier Naruto.
Oui, voilà.
Ouais, mais il peut être sur PS3 ou sur Xbox 360. Hein. C'était quasiment le même type de graphisme. Après, c'est beaucoup plus fin. Hein.
Oui, c'est
on
plus
est
fin,
d'accord.
C'est plus joli quand même.
Mais
c'était déjà une performance sur PS3. Moi, je trouve. Ouais. Enfin voilà, c'est un cel shading parfait, quoi. Magnifique. Mais, bah, d'ailleurs, beaucoup mieux que celui de l'attaque des Titans.
Ah,
qui,
oui.
Pour moi, alors vraiment 3-4 niveaux en dessous du cel shading
des
Titans
de
Naruto.
On est bien d'accord sur.
Attaque des Titans qui sort aussi sur PS
Vita. PS3 pour le coup. Et c'est justement la raison.
D'ailleurs,
l'une
des tendances actuelles pour les jeux japonais, c'est de sortir sur PS3, PS4, PS Vita.
Mais pourquoi ça?
Parce qu'elle marche toujours. Parce que
Vita
a un succès.
Ah, je parlais
plus
de la PS3 que de la Vita. La Vita,
mais parce que la PS3,
aussi.
C'est pareil, il y a énormément de PS3 installées dans les foyers japonais.
Elle sort justement de manière assez régulière sur cette console, même si pour nous elle est complètement enterrée en France.
Mais là, c'est une spécificité du marché japonais, et donc sur certains jeux japonais, Star Ocean 5, pareil, va sortir.
Integrity and Faithlessness.
C'est un truc amusant, mais révélateur. La dernière fois que j'étais au Japon, donc c'était au TGS, donc septembre 2015, j'allais me balader un peu dans les boutiques de jeux pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait, les tendances et tout. Bah, les jeux en occasion étaient encore plus chers sur PS3 que sur PS4. C'est-à-dire qu'ils en vendaient, à l'époque, ça a accéléré depuis. Mais à l'époque, comme ils vendaient pas assez de jeux PS4 par rapport au PS3, bah, les occasions étaient moins chères. C'est révélateur. Bah,
on pensera à Bandai Namco par exemple aussi avec les derniers Tales of en fait qui ont mis énormément de temps en fait pour faire ce shift, et donc la plupart des derniers Tales of sont sortis aussi bien sur PS4 ou sur PS3, ou qui même continuent à sortir uniquement des jeux, bah, comme le Dark Souls par exemple, les nouvelles versions de Dark Souls uniquement sur PS3 avant de pouvoir les sortir sur les nouvelles consoles. Et donc bon, ça leur a mis un peu de temps, mais c'est pas grave, maintenant on y est. Et qu'on regarde bien en fait les sorties de 2016 du jeu vidéo,
oui,
on a l'impression effectivement on a l'impression d'être revenu dans les années 90. Du Final Fantasy, du Star Ocean, du Dragon Quest. T'as pu savoir
c'est tout ce
faire.
Qu'on veut.
Du Breath of Fire, Odin Sphere aussi d'ailleurs.
Ah oui, Odin Sphere, l'Estrasir, qui s'annonce pas mal du tout. Même si c'est un remake, il a l'air quand même super beau.
C'est ça.
Encore une fois, comme d'habitude,
c'est important qu'ils continuent ou qu'ils reprennent à cultiver leurs différences. Parce que la force du jeu vidéo japonais, moi je trouve que ça a été l'un de leurs écueils aussi. C'est qu'ils ont voulu un peu singer l'Occident d'une certaine manière sur la génération d'avant, sauf qu'ils n'y arrivaient pas. Et donc ça fait des pitiés. Alors que s'ils jouent sur leur force et que technologiquement parlant ils se remettent un peu à niveau, ils ont tout à y gagner. Parce que pour le joueur, bah, t'as le choix entre les trucs très calibrés et souvent très quali occidentaux, et puis les jeux, les productions ou les propositions japonaises qui sont un peu différentes quand même, qui ont quelque chose que les occidentaux ne savent pas reproduire d'une certaine manière quand c'est vraiment bon, et qui fait toute le sel de la variété, de l'originalité.
En même temps, dans ce retour du jeu japonais, c'est vrai que on retrouve ça, leur ADN avec Final Fantasy, Dragon Quest.
Ah bah là on a une liste sous les yeux, c'est Noël, hein, franchement.
Mais oui, d'accord,
2016,
mais
c'est vraiment la fête.
Moi
quoi.
J'ai envie de dire
oui,
un truc quand même, c'est que fondamentalement la force du jeu japonais c'était sa différence, mais c'était aussi son innovation. Ils inventaient des trucs. Voilà. Et là, alors t'as raison, ils ont singé pendant un moment un peu le jeu occidental, mais là j'ai l'impression qu'ils se singent un peu aussi eux-mêmes.
Eh bien, et moi je pense une chose.
Ah ça y est, c'est l'instant.
Ils se singent un peu eux-mêmes.
J'ai la pêche, mais après j'y vais.
Et notamment par exemple, quand tu regardes un peu les genres qu'ils ont réussi à faire émerger, donc évidemment le Monster Hunter-like, on se retrouve entre copains à 4, on fait un truc, il y a du loot, on fait augmenter son armure, son machin, etc.
Mais c'est très culturel, encore une fois.
Oui, ouais, c'est devenu un phénomène culturel, mais tout le monde fait ça maintenant. Donc il y a Tukiden. Tu vas les citer mieux que moi.
Tukiden, Goditeur,
chaque éditeur a fait le sien, et ils font que ça en ce moment. Ça. Des visual novels et donc les anciennes licences qui reviennent, dont Metal Gear qui est extraordinaire. Mais le jeu japonais de la grande époque, c'est aussi l'innovation, les nouveautés et tout ça. Et ça, je trouve que ça manque encore.
Mais on va revenir
à la formule actuelle.
J'ai jeté ma ligne.
Attends, avant que tu jettes ta ligne, il y a aussi le retour des claques dans la gueule un petit peu aussi au niveau visuel.
Oui, bien sûr.
Ce qui est quand même quelque chose d'assez important.
Ça fait toujours du bien.
Ça fait plaisir.
Oui.
Exactement. Pour revenir justement à ce que t'expliquais, effectivement, il y a un grand manque d'innovation, et c'est vrai que c'est assez frustrant, en plus qu'on aime ça. Et je pense que vous avez connu ça beaucoup mieux que moi. Mais pour le coup, il leur faut un peu de temps. Là, ils sont en train justement de revenir. Et je pense 2016, ils vont tout sortir. On va voir que c'est un Japon puissant qui va revenir. Et 2017, là, je pense qu'ils vont commencer à sortir des petites choses.
Alors, 2017, il y a Shenmue 3. Avant que tu lances ta ligne, rappeler vite fait ce qu'on attend au minimum cette année. Hein, on a dressé vite fait des noms de jeux. FF15. Déjà, pour commencer, Final Fantasy World, Project Setsuna que tu es en train de tester en ce moment, Rudy. Le test arrive
bientôt.
Très bientôt, qui est un peu l'héritier de Chrono Trigger, d'après ce qu'on nous disait.
À voir.
Qui est quand même une chose plutôt intéressante. Persona 5, ultra attendu.
Ultra méga attendu.
Qui devait d'ailleurs sortir sur PS3 seulement au début, et puis ensuite ils
et
ont.
Et finalement, oui, bah, comme tous, PS3.
J'ai jamais fait
PS4,
un Persona et je le regrette en fait. Il faut absolument que j'en fasse un jeu.
Bah, lance-toi sur PSP.
Bah, le 4, ouais.
Voilà, soit Persona 4 Golden ou sur PSP, P3P. Ouais. Excellent.
Kingdom Hearts 3, il est censé arriver cette année.
2.8 aussi, HD Remix encore.
Voilà, The Last Guardian.
C'est pas le titre HD Remix Teardrop by Sleep.
Voilà, si on commence à donner
Teardrop Burst by Sleep.
C'est Burst by Sleep, oui.
Il y aura du Dragon Quest, en veux-tu, en voilà. Il va y avoir
le Monster Joker, le Dragon Quest 2.
Puis on l'oublie, mais cette année, il y aura Zelda. Alors, sur Wii U, peut-être pas toute seule, mais peut-être aussi sur NX, mais Zelda. Donc c'est quand même c'est l'année ou jamais quoi, j'ai
et
envie de dire.
Et Pokémon aussi encore une fois, l'annonce qu'il y a eu récemment, oui, le lune et le soleil.
Soleil et lune, ouais.
Quelle originalité, tout ça ne valide pas du tout ce que j'étais en train de dire.
Mais justement, non, si. Attendez,
voilà. Vous allez, tu as lancé ta canne à pêche, Julien, c'est le moment là, de tirer la ligne.
Je tire, un gros poisson, poisson doré. La vérité, je vous le dis, c'est que le Japon va exploser dans un domaine que nous n'avons pas du tout évoqué pour l'instant, et dans lequel ils vont s'éclater totalement, s'épanouir de manière incroyable, et vont nous étonner,
c'est bon.
Un truc de fou. Et j'ai déjà pu le voir dès le TGS de l'année dernière.
Les patchs,
ça s'appelle
la réalité virtuelle.
Et là, je peux te dire qu'ils vont vous faire des trucs. Mais si, évidemment que
si.
J'ai
pas
déjà été. Comment elle s'appelle l'idol là,
Hatsumeiku.
Bon, et bien, j'ai déjà essayé un jeu en réalité virtuelle où j'étais un mec dans un concert d'Hatsune Miku. Autant te dire que j'en ai rien à faire. Et bah pourtant j'ai kiffé ce moment. J'étais
merci
pas
pour
avec Trier Veller mais la pompe à tweet, mais c'était super parce qu'ils ont fait un truc là, justement on disait ils se copient un peu, bah, c'est vrai dans le jeu traditionnel, mais là c'est totalement nouveau et c'était super. Et je, avec mon comment ça s'appelle, le PS Move, je faisais des petits mouvements et tout, elle m'a invité sur scène, j'étais comme un fou et tout, j'avais toute la scène, c'était chambé
et c'était l'instant réalité virtuelle.
Bon, t'inquiète qu'il va durer un peu plus longtemps que ça. Ensuite le jeu de Namco Bandai.
Attends, parce que je voulais lancer un son. En fait,
Love Summer, c'est ça, c'est Love Summer. C'est Summer Love.
Je sais plus, mais enfin, c'est le jeu de Drake.
C'est deux mots mis dans un sens ou dans un autre, je ne sais plus. Et ben alors, ça, je peux te dire, c'est pas demain qu'un développeur occidental te le sortira. Parce qu'il n'osera pas que c'est oh là là, la petite bronderie, on me taxerait de sexisme et de mais allez vous faire foutre. Eux, ils l'osent et c'est chambé. Et c'est perturbant parce que tu fais. Je suis dans quoi là ? Je suis comme dans ma vraie vie, en train de lui sourire un peu, de lui regarder un peu le derrière, parce que oui, on le fait tous, faut arrêter. Et les meufs, vous faites pareil. mais bien sûr. Et
bah
donc,
oui,
ça, c'est étrange. Et ça vient du Japon. Et il y a qu'eux qui pourront le faire. Quand ils vont te sortir des trucs avec des animaux chelous à aller découvrir dans une forêt, ils seront les seuls à savoir te le faire de manière rigolo, décalée et machin. Ils ont là un terrain de jeu. Qui franchement, j'ai pas envie de leur être dédié parce qu'il y a plein de trucs occidentaux qui sont d'ores et déjà vraiment concluants, mais où ils vont pouvoir s'exprimer et retrouver, je pense, une énergie créative folle.
D'autant qu'il y a.
C'était l'instant de réalité virtuelle, attention! Voilà. À chaque fois que nous parlerons de réalité virtuelle, maintenant nous aurons ce petit son.
Et d'autant qu'il y a une scène indé au Japon, hein, faut pas l'oublier, et que la scène indé japonaise travaille énormément justement sur la réalité virtuelle.
Et la réalité virtuelle, en tout cas dans un premier temps, elle va surtout s'épanouir avec des petites expériences, pas des trucs de 30 heures, etc. Bah, mais
de toute façon, c'est un peu
le
cas de tout le monde avec la réalité virtuelle.
Et on voit bien le line-up, par exemple, avec le PlayStation VR, c'est avec beaucoup de jeux de golf, c'est des destructions apparemment. C'est un truc idiot, mais
c'est Red Fit Robogolf.
La vérité, c'est qu'ils sont les plus forts pour te trouver des petits concepts débilos, rigolos, étonnants, mais qui peuvent pas durer 300 ans quoi.
D'ailleurs, c'est
imagine
japonais,
un WarioWare là, un Wario, c'est
WarioWare,
tu dois faire plein de trucs de manière frénétique, mais imagine le maintenant, penser en réalité virtuelle.
Mais attention, Nintendo et VR, attendre une dizaine d'années,
mais
je pense que c'est ça le problème.
Une sorte de WarioWare, pensez
pas.
Oui,
non, mais ça, il y aura des jeux japonais comme ça. Mais d'ailleurs, dans la vidéo PlayStation VR qui a eu. Attends, alors c'était quoi le dernier truc ? C'était le PlayStation
Experience.
C'est ça ? Où on a vu ce truc où. Enfin, tu peux. Job Simulator.
Ouais.
Vous avez vu ça ? Bah, c'est exactement ça.
Tu vas voir.
C'est Job Simulator, tu prends le truc, tu fais l'addition, tu jettes le ketchup.
Vous voulez mon avis ? Je pense que on va se retrouver d'un côté avec les Occidentaux qui vont vous faire plein d'expériences narratives, je mets des guillemets hein, parce que j'adore ça, pompeuses, arty, immersivo, intello, enfin ce que tu veux.
Prétentieuse.
Prétentieuse, voilà. Voilà. Et genre, voilà, ouais. Un peu les auteurs.
Enfin, ce qu'on désignera comme prétentieuse, voilà. Mais à chaque fois.
Mais moi, j'adore ça, donc je m'inclus très bien, je suis public de ça, il n'y a pas de problème. Et les Japonais, qui vont te faire peut-être aussi un peu
un
ça.
Et en réalité virtuelle.
Des trucs chelous, plein de trucs chelous que tu auras trop envie d'essayer.
Et des gros kiffs.
Et des gros kiffs. Voilà. Ouais. Donc moi, je pense que, oui, ils ont une porte et ils vont s'y engouffrer. Sans la réalité virtuelle.
T'as pas de jingle plus... oui, non.
Non, j'ai pas de jingle.
Et en plus,
la
scène PC au Japon est en train vraiment, et c'est pas en train, elle existe déjà depuis un bon bout de temps, elle va s'exprimer. Et le PlayStation VR va vraiment, quand même, s'il se merde pas trop au niveau du prix, etc., être quand même un truc assez attrayant. Et bah, c'est Sony, et donc c'est japonais, et donc bah, les japonais sont très contents.
Je pense que Sony vient de voir le prix des casques de réalité virtuelle, et ils ont peut-être remonté un petit peu.
Je peux pas croire qu'ils le fassent après.
Réponse le 15 mars,
ça restera quoi qu'il
imagine. Cher que la console.
Oui, mais c'est pour ça que je peux pas croire que ce soit au-dessus.
Parce que dans la tronche des gens, ça va rester, c'est un accessoire pour la console.
Bah d'accord, mais si tu fais 499. Oui, imagine, même si c'est 499, parce que s'ils font ça, c'est un pack avec des PS Move. Donc le pack PS Move, PlayStation VR plus console, ça reste le prix juste du casque.
Oui,
pour les autres.
1000 euros quoi.
Donc ça reste, certes, technologiquement moins avancé, mais plus.
Mais ça reste moins cher qu'un PC plus un Oculus ou un PC plus un.
Et pour Sony, je pense que ça va être plus une expérience en fait.
C'est là que tu te rends compte que la véritable démocratisation, elle est pas encore pour les 2-3 années qui viennent.
Ah, c'est bien d'accord.
Là, on rentre dans l'ère de l'évangélisation et l'excitation de la réalité virtuelle, les premiers pas.
Mais les early adopters risquent d'être plus nombreux que des early adopters sur d'autres technologies.
C'est
quoi.
Vrai.
Ah, ouais. Il risque d'y avoir du monde quand même.
Parce que les premiers écrans plats plasma,
je crois qu'il y a quelque chose à dire et vous n'arrêtez pas de le couper.
Non, parce que ça m'étonne qu'on parle de VR et à aucun moment on parle de MMO. FF14 avec le fameux casque, donc le PlayStation VR, et notamment il y a en mars.
Ça marchait très très mal au TGS, on a essayé. Pour l'instant, c'est pas
à
ça.
À voir, mais tout le monde pense à Sword Art Online, je pense, et imagine être dans ce jeu-là.
Ah oui.
En ce moment, bah oui.
Ça et .hack, ce genre de licence.
Mais en ce moment, il y a.
Parce que Sword Art Online. Alors, en fait, explique ce que c'est que Sword Art Online, parce que tout le monde connaît pas.
Effectivement, Sword Art Online, en fait, c'est un animé dans lequel, c'est un animé dans lequel le héros joue un MMO. Sauf que pour y jouer, il s'allonge dans son lit, en fait, il met un casque de réalité virtuelle et se réveille à l'intérieur du jeu.
Voilà. Donc, tu t'imagines que évidemment, c'est fait pour quoi.
Bah, c'est ça, exactement. On pense à ça. Et en ce moment, en fait, il y a IBM qui est en train d'organiser justement des tests à Tokyo sur ces expériences de réalité virtuelle là. Et donc, tout le monde est déjà en train de penser à Sword Art Online, ce genre de choses, à voir ce que ça va pouvoir donner. Mais effectivement, je pense qu'il y a de grosses choses à faire de ce côté-là.
.hack, c'est CyberConnect 2 aussi, non? Si je ne m'abuse, ça leur appartient.
Alors, je serais incapable de te dire.
C'est pas eux. .hack, c'était.
Il me semblait bien que c'était
eux. Bandai, non?
Ouais, mais ça, il me semble que c'est CyberConnect 2 qui s'en occupe.
Peut-être.
Donc il y aura peut-être des possibilités.
Qui s'en est occupé, en tout cas.
Ouais, même s'il y a peut-être des chances qu'ils reviennent dessus, qu'ils nous fassent un truc en réalité virtuelle.
Il
n'y
a que dans Project Cross Zone qu'on les voit, les persos .hack ces derniers temps. À voir.
Qui sait. En tout cas, c'est bien qu'on ait parlé un peu PC parce que pour le rayonnement en 2016, et ça a commencé déjà depuis quelques mois, Rudy, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Le PC, Steam en particulier, a un rôle assez déterminant maintenant.
Steam.
Ouais. Steam. Oui, sûrement Steam, je pense. Mais effectivement, en fait, comme vous avez pu le remarquer depuis quelques temps, on retrouve énormément de RPG japonais qui arrivent sur Steam.
C'est bien CyberConnect 2, hein, bravo.
Merci. Mais voilà, on pensera notamment par exemple à Tales of Symphonia, la ressortie de Valkyria Chronicles, les Final Fantasy 13, 1, 2, 3 qui sont présents, même les Metal Gear Repas par exemple.
Metal Gear
sur Steam. Ouais. Le Revengeance, ensuite le 5. Enfin voilà, on se retrouve vraiment dans une situation où ils sont en train de nous faire patienter justement avec toutes les nouvelles sorties qui vont arriver en 2016, mais aussi c'est une manière pour eux de tâter un petit peu le terrain en fait de l'Occident. Je pense en nous ressortant ces vieux jeux parce que par exemple concernant Tales of Symphonia, j'avais bossé un petit peu chez Bandai Namco en 2013 et il faut savoir que c'est depuis 2013 justement que c'est la sortie de ces jeux là aujourd'hui sur Steam. Il y avait eu ces discussions depuis 2013, donc ça sort que maintenant, mais c'est les éditeurs ils pensent quand même depuis longtemps et on tend réellement vers cette
occidentalisation. Il y a eu Final Fantasy 9 qui vient d'arriver là sur PC aussi,
effectivement, et même avant il y avait les 8, le 4,
il y a eu le 6 dans sa version iOS Android. J'ai pas envie d'en parler,
n'en parlons pas.
Ouais, voilà. mais oui, le PC commence à être un terrain presque obligatoire maintenant pour le Japon, qui n'était pas trop habitué justement à ce genre de portage jusqu'ici. Est-ce que c'était de la réticence? C'était dû à quoi essentiellement jusqu'ici? Le fait de ne pas vouloir trop aller sur PC, et aujourd'hui d'un seul coup on se dit oula, attends, le PC quand même ça joue.
Alors j'aurais tendance à dire effectivement, on se retrouve dans derrière effectivement, c'était une réticence. Une réticence plus pour le fait, encore une fois comme on disait, il jouait beaucoup sur console, sur console portable, pas beaucoup sur console de salon et encore moins sur PC. Le PC c'est plutôt pour des expériences massivement multijoueurs en fait. Le Japon notamment a un marché du free-to-play qui est énorme, enfin quand je dis free-to-play donc ces fameux MMO gratuits, qui est énorme par rapport à ce qu'on peut avoir en France, enfin en Occident. Et donc ça fait que depuis donc pas longtemps, ils ont commencé à comprendre que oui, on va pouvoir commencer à proposer de vraies expériences et de vrais jeux sur PC également. Donc c'est pour ça.
D'accord. Et donc grâce à ça, en tout cas, ça va sûrement permettre à ce que 2016 soit une grosse année, une énorme année pour le jeu vidéo japonais. On peut aussi citer le fait que le jeu mobile, justement, commence aussi à être un marché très très gros, au point que l'année dernière Nintendo a annoncé son partenariat.
Là, c'est plus que comment ça.
Ah oui, non, mais ça effectivement
continue, mais à l'échelle mondiale, encore une fois, parce que des expériences qui sortent qu'au Japon, il y en a eu beaucoup.
Non, mais là... pour remarquer ça, il suffit par exemple si vous avez un téléphone, smartphone, Android, enfin iOS ou Android, allez simplement sur le Play Store par exemple, tapez Square Enix et regardez le nombre de jeux qu'il y a, qui sont, qu'on peut télécharger sous la bannière Square Enix, c'est juste impressionnant, ouais, au moins une vingtaine. Et donc on pensait à Final Fantasy Record Keeper par exemple. Il y a. Mobius, Final Fantasy Mobius en France, il y a aussi Heaven's Strike Rivals par exemple, qui est un partenariat entre les développeurs d'Hateful Boyfriend et de Square Enix.
Hateful Boyfriend, la simulation de drague de pigeon.
Exactement.
Pardon. Hateful Boyfriend.
Hateful Boyfriend.
C'est vraiment une simulation de drague de pigeon.
Oui, tu incarnes un pigeon, tu dragues d'autres pigeons.
On a le test sur Gameblog.
Oui, bien sûr. Fumble l'a fait il y a un an et demi, je crois, un truc comme
ça. C'est vraiment sympa.
Et depuis, il y a plusieurs versions.
J'adore. Je vais le lire.
Mais c'est pas japonais, Hateful Boyfriend.
Non, mais c'est justement, c'est pas.
C'est un jeu japonais fait par des occidentaux, quoi.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'ensuite Square Enix les a approchés pour sortir un autre, une autre application, enfin un autre jeu sur Android. Et effectivement, là, on voit énormément en fait de jeux et d'RPG japonais arriver sur console.
D'ailleurs, on peut le dire, il y a énormément de jeux occidentaux qui s'inspirent justement de l'âge d'or japonais. On peut parler de Shovel Knight, par exemple, qui est un jeu de plateforme américain qui reprend les codes des meilleurs jeu de plateforme des années 80-90. Prochainement il va y avoir Shyness des Français d'Enigami qu'on est allé voir il y a pas très longtemps, qui lui aussi s'inspire énormément, et il s'en cache pas, hein, quand on est allé dans les locaux c'était des tableaux de Chrono Trigger, de Dragon Quest, de Dragon Ball, qui s'inspirent énormément. On a l'impression que tout le monde veut devenir japonais en fait en 2016. C'est un peu ça, non?
C'est ça, mais et pourquoi pas? Et alors, justement, ils proposent des expériences.
C'est tellement l'année du Japon
riche,
que même les,
voilà,
occidentaux
veulent devenir japonais. C'est excellent, en tout cas. Personnellement, j'adore. Et ça
je pense qu'il faut qu'on finisse le podcast là-dessus. Là. C'est la meilleure conclusion dont tu pouvais.
Oui, c'est vrai, mais avant ça, je vais quand même vous demander si pour vous, c'est vraiment l'année du Japon. Enfin, ça y est, on y est.
Je te dirais ça à la fin de l'année, si c'était bon.
Ouais, mais déjà, là, on regarde.
Ça a l'air d'être bon.
Ça a l'air d'être mieux.
Je pense qu'il faut être plus précis dans les termes. Ça sera jamais l'année du Japon. Ça sera l'année du retour du Japon. Sur la scène.
Parce que
ça sera pas l'année du Japon, quoi.
Mais il s'est jamais vraiment barré quand on regarde le Japon.
Non, mais je veux dire, la production internationale va rester bien plus. Toujours prolifique.
Pour moi, j'espère que c'est la première année depuis longtemps.
Du vrai retour.
Où je vais rejouer plus souvent à des jeux japonais. Parce que je vais, franchement, sur peut-être mes 20 premières années de joueur, j'ai joué quasiment que à des jeux japonais. Et là, depuis les 10 dernières années, je joue quasiment que à des jeux occidentaux.
Ouais, c'est ça, le rapport s'est
complètement inversé. Ouais.
Ah ouais, moi, c'était toujours été l'équilibré.
J'espère. Mais t'as joué à quoi en jeu japonais dernièrement?
S'il y a de quoi faire.
Bayonetta. Attends, Bayonetta 2, ouais. C'est vrai qu'en japonais.
Ah bah voilà, c'est ça la question.
Je suis un peu. Je suis un peu à la rue. Bah
Persona voilà, Single Knight, par exemple.
Ah, je l'ai pas fait.
Etriano Odyssey.
J'avais essayé à la Gamescom.
Toi, c'est pas ton cas, parce que toi, t'es un féru d'import.
C'est d'ailleurs pour ça que tu es responsable d'import désormais, c'est ça.
Heureusement.
Ouais, moi, je joue à aucun jeu japonais. Je fais des tests un peu.
Bonjour.
Mais ouais, donc j'espère cette année jouer rééquilibrer un peu la jauge entre jeux occidentaux et jeux japonais.
J'ai quand même oublié le jeu que Sakaguchi a annoncé. C'est pour cette année ou pour l'année prochaine?
Je sais pas.
Ouais,
je suis incapable de dire.
Ouais,
mais Lost Odyssey, par exemple, pour moi, c'est le dernier RPG japonais qui m'a vraiment touché, que j'ai vraiment aimé. Mais c'est vraiment le dernier. Je dis pas que tous les autres sont pas bons,
oui,
mais ils m'ont pas plu. Ils m'ont pas attrapé.
Puis il faut avoir le temps d'y aller aussi, parce que Persona 4 Golden, c'est quand même quoi, 70 heures minimum.
Non, c'est très long. Donc, effectivement, c'est aussi l'un des autres problèmes du jeu RPG japonais, c'est que c'est extrêmement chronophage. Il faut au moins avoir le temps, le week-end. Donc,
c'est pour ça que sur PS Vita, c'est très bien.
Exactement.
J'ai oublié de citer un jeu, et je m'en excuse, dans les jeux occidentaux, enfin, en l'occurrence, qui viennent d'Afrique cette fois qui copie un petit peu l'essence japonaise. C'est Orion évidemment, de chez Kiro Games, qu'on salue au passage, qui sort très bientôt. Ça fait partie de ces jeux qui se sentent japonais. Tout le monde se sent japonais.
Tout le monde se sent japonais. Et là je parle lentement parce que j'ai perdu l'idée que je voulais dire, mais il faut que ça se sente pas trop.
Je peux mettre une musique d'attente si tu veux.
Ouais, mais une petite musique d'attente.
Bah alors écoute, en attendant que tu retrouves ton idée.
En attendant, vous pouvez. Ça va, c'est
bon. Ouais, ça va super. Ouais, écoute,
tranquille.
On aurait été à savoir si chacun d'entre vous pensait vraiment.
Voilà, j'ai retrouvé mon idée.
Ah, cool.
Nous sommes arrivés. Ah, cinquième étage. Hop, j'arrive.
Attends une seconde.
Bonjour.
Alors, quelle est ton idée?
Bonjour, les amis. En fait, pour beaucoup de joueurs, on va dire classiques, pas des gens qui sont très très portés sur l'import, le Japon aujourd'hui, c'est Nintendo. Parce que Nintendo, globalement, l'écrasante majorité des jeux qu'ils poussent, que ce soit que ce fait en interne ou ceux qu'ils produisent ou qu'ils éditent, sont des jeux japonais. Donc aujourd'hui, je trouve, l'un des derniers bastions du jeu vidéo japonais grand public, c'est Nintendo.
C'est celui qui s'est le moins occidentalisé, en tout cas.
Non, mais à l'inverse, justement.
Je suis pas d'accord.
Parce que c'est la question que j'allais poser dans ce cas.
C'est ma question.
Enfin, sont-ce réellement de vraies expériences complètement japonaises?
Bah oui.
Mais simplement,
parce que pour moi, le Japon, c'est pas que des trucs barrés.
Oui, non, effectivement.
Ils ont totalement oublié de se renouveler depuis 10 ans, mais à part ça.
Tomodachi Life, je l'ai vu rarement chez un occidental.
Non, on est bien d'accord. Sur ce point-là.
Mais même, je veux dire, même les Pokémon, c'est pas des petites créatures cheloues et
C'est un concept japonais.
C'est très japonais.
C'est du RPG classique, mais à part ça, je repense justement à du Mario Tennis.
Splatoon.
C'est du FPS. Avec une bonne
couverture japonaise. Et des mecs chelous comme ça, là. J'ai vu chez peu de développeurs.
T'as joué à Splatoon?
Ah, j'adorais.
C'est génial. Franchement, c'est un super. Jeu, quoi.
Ben c'est ça, en plus on peut passer un bon moment assez tranquille justement, sans avoir besoin de faire des skill shots et compagnie, non?
Et je vais te dire, ça se sent même rien que dans les musiques, dans l'ambiance sonore. Et les occidentaux, on est très action music, voilà, eux c'est toujours des petites musiques un peu chou,
le petit rock,
j'adore,
avec les trucs un peu bizarres,
un peu jazzy, space, zen, j'adore.
Bon, alors,
d'ailleurs, on a des trucs les plus cools de la Wii U. La Wii, c'était les musiques de menu, non? C'est pas ça qu'on s'était dit.
Ouais.
C'est ça. Ouais. Y compris quand tu. Moi, il y avait un truc qui m'avait fasciné, c'est comment ils avaient fait la. Tu sais, quand t'avais une Wii et que tu passais à la Wii U, tu pouvais utiliser un logiciel qui faisait la transition.
Avec
et en fait, il y avait une super musique et c'était des petits Pikmin qui marchaient avec
qui
les sauvegardes.
Sauvegardes.
Et, voilà, et qui allaient dans une fusée qui décollait vers la Wii U. Enfin, je sais pas.
Ça marche aussi comme ça sur 3DS d'ailleurs.
Ils sont assez bons de ce côté-là.
Les Mii. Les Mii, pareil, tout le monde aurait pu le faire. Ah, c'est Nintendo qui l'a fait.
Alors,
et c'est vraiment japonais.
Non, justement, enfin, les Mii, c'est simplement une réponse qui a été faite quand étaient sortis les fameux avatars d'Xbox 360.
Ah, pop,
non,
mon ami.
Attends,
c'est dans l'autre sens.
C'est dans l'autre
sens. Justement, Microsoft a répondu à Nintendo en faisant un avatar 3D qui avait des jambes et machin, là où les Mii n'avaient qu'une petite tête à part.
Voilà. Et ils l'ont toujours d'ailleurs.
Oui,
effectivement.
Quoi
qu'avec Miitomo, justement,
n'oublions pas Miitomo.
Effectivement, d'ailleurs, les inscriptions ont déjà commencé pour ceux que ça pourrait intéresser sur le site de Nintendo.fr. Donc Miitomo, ça va être ce nouveau free-to-play par Nintendo, donc Nintendo qui se lance sur du free-to-play mobile.
Application sociale,
voilà,
mobile. C'est ça.
Application sociale, c'est ça, où le but c'est de découvrir des secrets sur ses amis. On ne sait pas
encore
comment.
Peut-être qu'on vous en reparlera prochainement sur Gameblog.
Ah bon, d'accord, je pensais que tu allais nous dire un truc.
Teasing.
Ça tease beaucoup sur ça. Donc, puisque là, ça fait deux personnes à qui je demande si c'est l'année du Japon. Non, moi je pense que c'est plutôt l'année du retour, machin.
Ah bah oui.
Rudy,
pour
toi,
moi,
c'est
complètement l'année du Japon, effectivement.
Bam.
Ah oui, non, mais si, comme on expliquait, là, quand on voit le nombre justement de franchises qui sortent, et sur toutes les consoles en plus, c'est ça qui est super. Bon, désolé aux possesseurs d'Xbox One, mais voilà, c'est plutôt PC, PS4,
Xbox One, comment dire, comment il s'appelle, Scalebound. Scalebound.
C'est l'année prochaine, il a été reporté.
Oui.
Ouais.
Ciao et bonne soirée.
C'est moche, hein, mais il a été reporté.
Désolé, oui, je te dis, désolé à vous, mais à part ça, il y en a vraiment.
Et puis sur Xbox One, ouais, alors, il y a eu un bon jeu japonais l'année dernière, celui de Swery, D4.
Ouais.
Ah oui,
voilà,
mais
qui était en fait D4 épisode 1, mais il n'y aura jamais la suite.
Il n'y aura jamais de suite, non, malheureusement.
Ouais, bah, malheureusement, ouais, il s'est passé assez.
T'as fait chier, quoi, parce que c'était vraiment marrant.
Ça, c'était une bonne expérience. Ah oui, justement, le côté vraiment barré, le côté d'énigmes et compagnie, c'était assez sympathique pour le coup.
Voilà, du Swery à 100%. Bah du coup, j'ai envie de vous demander si 2017 c'est l'année du retour ou l'année du Japon. 2016, pardon.
Oui.
Non,
2017.
Du 2017, coup. C'est l'année de Shenmue, ça c'est autre chose.
Alors voilà, il y aura d'autres choses en 2017. Est-ce que ce sera pas 2017 encore mieux, encore plus puissant, encore plus fort, encore
Je regarde ma boule de cristal deux secondes.
Ah, attention.
Ouais, avec Shenmue, avec du FF7 Remake,
je pense qu'il va falloir qu'on attende d'avancer dans 2016.
Ouais,
avant
moi, j'ai envie de savoir. 2018.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'annoncé pour 2017?
En fait, ça dépend juste quelle sera l'année du premier jeu de Kojima Production. Voilà, une fois que tu auras la date, tu sauras.
Le fanboy est dans la place.
Ça vous chauffe un peu là.
Ce
sera pas en 2017.
Mais non, mais parce que globalement, l'une des annonces les plus importantes est le feuilleton qui a fait tout 2017. 2015, c'est quand même toutes les péripéties autour de Kojima Productions.
C'est quand même un studio japonais.
Et, et quand même, regarde l'impact de l'annonce. Est-ce que tu connais beaucoup de fois dans l'histoire où t'as quand même le boss d'une, d'un constructeur qui fait une vidéo tout seul avec un sourire genre comme as pour te dire et eux on travaille avec eux, merci beaucoup. Voilà, t'as jamais vu ça? Bah non, avec Kojima Productions c'est le cas.
Bah comme j'avais jamais vu qu'un présentateur dire bah voilà, Kojima n'a pas pu venir à notre cérémonie parce que Konami ne voulait pas.
Ouais, c'est vrai que c'est assez spécial. La star du jeu vidéo et honnêtement son dernier jeu quand même, bon, il est imparfait mais pour moi il est cultissime et en tout cas c'est celui sur lequel dès qu'il va ouvrir la bouche une fois de plus tous les projecteurs vont se tendre parce qu'il est différent, il ose des trucs différents, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème, il est clivant, bah tant mieux. Et j'aimerais bien que plus de développeurs dont des occidentaux se mettent à être comme ça, c'est-à-dire prendre des risques, oser des choses, feuilletonner leur life, etc. C'est important.
Là, pour un jeu Kojima Production, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu.
C'est ce que j'allais dire. On sait pas combien de temps.
Ça sera même pas 2017.
Mais par contre, voilà, mais l'avantage avec Kojima, c'est que l'aventure commence à partir de la première fois où il communique. Et il peut communiquer 2-3 ans à la sortie du jeu facile.
Ah
donc,
oui, complètement.
Donc, on va en entendre parler, en 2017.
Avec toutes les prospections qu'il a fait à travers le monde, là, dans des différents studios, il a sûrement été glané des informations techniques.
C'était le but.
Puis même au niveau des créatifs, tout bêtement.
Et puis, ça me fait repenser quand même que, pour le côté rétrospectif de 2015 et du jeu vidéo japonais, l'histoire la plus triste qu'on ait vue ces dernières années, c'est quand même celle de Konami, quoi. Franchement, putain, mais
c'est même pathétique.
Et je me suis fait la remarque la dernière fois quand on a fait l'émission Super Rétro Prime Turbo
avec Goemon,
avec Goemon, et que les gens disaient ah là là, là, là. Mais non, mais mec, il n'y a pas eu de jeu Goemon depuis 2006, je crois, et donc il n'y en aura plus jamais.
Bah, tu me dis 2006, déjà, je trouve ça vachement proche de
nous. Ouais, il y en a eu
sur 10
ans, quand même. Et bah, Goemon, on n'en aura plus jamais.
Il faut jamais dire jamais.
Ou alors un
mais
patchy slot.
Ça sent pas bon, oui.
Non, mais voilà, un patchy slot ou un petit truc.
Un petit peu,
une petite application
un petit peu de...
Non, mais c'est triste, quoi.
De violence érotique dans Goemon.
Il y a d'autres. Et
c'est triste d'avoir s'aborder sur sa propre bouche.
Castlevania, merde.
Ah, Castlevania, là,
toi qui es un fan absolu. Castlevania, Silent Hill, enfin, toutes les licences qu'il y a.
Il y a Arkham Fu, il n'y en aura plus non plus. Le dernier, c'était en 86 en même temps, on dirait, ça date.
J'étais même pas né.
Oui, voilà, il y a Arkham Fu, un des premiers jeux de baston.
Regarde, même PES, ça se trouve, au bout d'un moment, ils vont même lâcher PES, quoi.
Bah, on peut se le demander, on verra comment se comporte le DLC.
Putain,
le standalone Euro 2016.
C'est ce qui se passe quand t'as des boîtes qui sont juste gérées là pour le profit, la rentabilité et l'économie et jamais l'humain, etc. Bah, ça peut
mais
se produire
avec
partout.
Une stratégie intelligente, tu peux aussi faire du profit sur console.
Évidemment.
Et d'ailleurs, ils ont des exemples qui sont pas loin.
Mais Metal Gear est très rentable.
Bah,
Metal Gear 5.
Ouais, ils ont des exemples eux et puis ils ont des exemples dans d'autres boîtes japonaises. Quand tu vas Square Enix, tu disais bah voilà, ça les a pas empêchés de faire du mobile. Hein. Square Enix, ils ont une batterie de jeux sur mobile, ils ressortent tous leurs vieux trucs sans problème. Et tout, et à côté de ça, ils investissent à l'étranger, ils utilisent les middleware, ils sortent des nouveaux jeux de leur série phare, ils essayent d'inventer des nouveaux trucs.
Il y a des gens intelligents,
puis ils disposent de licences comme Hitman, comme Tomb Raider, avec lesquels ils peuvent faire
quand
des
quand
petites choses sympas.
Deus Ex,
ah oui, ben les Hitman Go et les Tomb Raider Go, pour le coup, vraiment sympathique aussi.
Après, on n'est pas dans les petits papiers de Square Enix, et ça se trouve, ils sont en train de se dire merde, nos jeux mobiles ça marche 10 fois plus pour 10 fois moins d'investissement.
Ouais, mais non,
est-ce qu'il faut qu'on lâche tout?
La vraie question, FF16 sur mobile ou non alors, c'est ça?
T'imagines?
Non.
Ah,
FF16. C'est ton jamais. FF16.
Bah ouais, on dit non comme ça, mais.
Oh oui.
Non.
Bon, okay.
Non.
Pas.
Mark my words.
Bref, vous l'aurez compris, c'est difficile de savoir si 2016 ce sera l'année du Japon. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui y croient ici. Et même moi d'ailleurs, j'y crois. Je pense que c'est l'année définitivement du Japon. Comme chaque semaine, messieurs, vous le savez, on doit obligatoirement passer par la case hors-jeu pour vous parler, à vous, chers lecteurs et lectrices, eh bien, de nos films, rendez-vous, spectacles, livres et autres qui nous ont intéressés et qui sont connexes aux jeux vidéo parfois. Eh bien, je vais commencer avec, cette semaine pour ce hors-jeu, Rudy, justement. Rudy, tu nous parlais d'une série.
Effectivement, donc moi je vais vous parler d'une série qui s'appelle...
Qui n'est pas sur Netflix, alors là c'est exceptionnel, attention, c'est marquez bien ce moment, elle n'est pas sur Netflix.
Alors pour être honnête, à la base je voulais parler d'une série qui était sur Netflix.
Et on t'en a empêché.
Et
donc il s'est ravisé en fait.
Non, c'est surtout que ces derniers temps j'ai décidé de regarder une série qui s'appelle Man Seeking Woman. Mm-hmm. Ça parle en fait de l'histoire d'un jeune de 27 ans qui se fait larguer dès le premier épisode par sa copine. Et maintenant c'est sa vie de célibataire et comment il va faire pour retrouver une copine et se créer l'amour, quoi, tout simplement. Mm-hmm. Sauf que son premier rendez-vous, par exemple, c'est sa sœur. Kickstarter qu'il organise et il se trouve nez à nez avec un troll, mais littéralement un vrai troll qui grogne et qui crie. Et donc c'est ça, c'est que des métaphores, des exagérations, et c'est voilà, c'est sa vie de célibataire mais vue via son esprit complètement tordu en fait. C'est simplement excellent, on passe un très bon moment, c'est uniquement 10 épisodes, ça se regarde très vite, mais
c'est une série américaine ou anglaise?
C'est une série pour le coup canadienne, je crois.
Canadienne.
Qui passe sur FXX. Et c'est moi ce que j'aime bien beaucoup en plus, c'est vraiment ce nouvel élan en fait des comédies romantiques qu'on peut avoir justement avec Love dont je voulais parler, ou You're the Worst et compagnie. Et donc là, c'est un très bon moment, une très bonne comédie romantique.
Et ça passe
complètement
sur
barrée. FXX.
FXX, c'est une chaîne qu'on trouve comment?
Aux États-Unis, on va dire qu'on voilà, on va dire que on l'a trouvé aux États-Unis, voilà.
Ok, je vois.
T'es aux États-Unis la
semaine dernière. Voilà, j'étais aux États-Unis
la semaine dernière,
longtemps.
Et c'est comme ça que j'ai pu regarder tous les épisodes. Donc.
Très bien, bon, on va sûrement arriver d'une manière ou d'une autre, de toute façon, par chez nous. Écoute, Man Seeking Woman, très bien, on va retenir, et puis on va passer à Julo. Toi, oui. Julo, tu nous parlais d'une saison 2 qui vient de débuter.
Exactement, et que j'attendais fiévreusement, comme d'ailleurs d'autres saisons 2 que j'attends de pied ferme, Marco Polo et Penny Dreadful, pour ne citer que.
Penny Dreadful, ce sera la 3.
Ce sera la 3, pardon, enfin la nouvelle saison, quoi. Ouais. Et donc, la deuxième saison de Better Call Saul est arrivée. Alors, c'est le fameux spin-off de Breaking Bad qui est, je crois.
Préquel.
Voilà, ça se passe avant Breaking Bad, mais c'est un spin-off donc autour du personnage de
Saul
Goodman, qui est l'avocat véreux de Breaking Bad, un des meilleurs personnages d'ailleurs.
Le
de Breaking
meilleur
Bad,
personnage,
voilà.
Incarné par Robert Odenkirk, qui est extraordinaire.
Donc, j'avais beaucoup aimé la première saison.
Bob.
Même si pour moi on n'est pas au niveau de Breaking Bad, on est dans un truc pour les fans, quoi, et donc je suis totalement public comme beaucoup d'autres, et c'est vraiment très intéressant toujours de s'intéresser aux origines des personnages.
Ça, c'est intéressant de s'intéresser aux trucs intéressants.
Tout à fait. Donc c'est toujours intéressant de découvrir les origines des personnages qu'on apprécie. Ça a été
surtout
le cas d'ailleurs avec Marco Polo et ce spin-off en un seul épisode sur Sentieux. Comment on dit Undead Eyes. La saison 2 vient de commencer. Il y a deux épisodes à l'heure où
trois.
Vous m'entendez.
Trois. Ouais, j'ai regardé le troisième.
D'accord. Ça commence bien, je trouve. Toi, je crois que Plumeau, t'étais
moi, je trouve ça un peu plus,
plus
calme pour l'instant.
Ça commence assez calme aussi dans la saison 1.
Mais la fin de l'épisode 3 montre que ça va accélérer.
C'est plus posé, on va dire, peut-être que Breaking Bad dans les dernières saisons. Mais on va dire que il y a toujours ce même esprit. Voilà, c'est très peu hollywoodien,
ouais.
Et très très cool, voilà, j'aime bien.
Et on retrouve comme dans la saison 1 l'ami Michael Mando, qu'on n'a jamais cessé de féliciter pour son rôle de Vas Montenegro dans Far Cry 3, qui commence à avoir un rôle un peu plus important
dans
la saison
1. Il avait déjà un rôle central dans la saison 1.
C'est encore plus important là, voilà. À la fin de l'épisode 3, tu verras.
D'accord.
Tu le verras. Bref, Better Call Saul, saison 2, c'est sur Netflix, c'est chaque mardi, si je ne m'abuse, pour nous et Julien.
Et d'ailleurs, Penny Dreadful, c'est la
bientôt.
Saison 3, c'est bientôt aussi.
Ouais, c'est bientôt aussi. Ouais.
Ouh là là.
On va pouvoir revoir Eva Green faire des incantations et tout, ça va être génial.
À chaque fois que je parle d'Eva Green avec Plumeau, on n'est pas d'accord parce qu'on l'aime tous les deux. Mais moi, je dis qu'elle a une beauté totalement imparfaite. Elle n'est pas belle au sens canonique du terme.
T'as pété un câble, toi.
Mais si, c'est
pas... De savoir, est-ce qu'elle vous aime, vous?
Elle nous connaît pas encore, mais si elle nous connaissait, c'est clair,
pas très grave.
Elle serait folle.
Persuadée qu'elle écoute ce podcast.
Non, mais tu sais, c'est comme Pénélope Cruz.
Si tu nous écoutes, Eva.
Pénélope Cruz, elle a la gueule un peu de travers et tout, quoi.
Quoi,
elle est pas symétrique.
Non,
tu peux dire ça de Cameron.
Mais non, mais attendez,
mais arrête.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a pas une beauté parfaite.
Allez voir dans
Zoolander 2, d'ailleurs. Beauté, et je la trouve infiniment plus belle. Parce que il faut pas mal comprendre ce que je dis.
Cinglé, quoi.
Je la trouve infiniment plus belle qu'un canon de beauté blond avec un visage parfait, etc.
Mais attends, Eva Green avec son nez tout droit, son visage ultra au trait ultra parfait.
Et d'ailleurs, ce qui est bien dans Penny Dreadful, c'est qu'elle est, on la voit dans, je veux dire, pas maquillée, rouge,
dégueulasse.
Ils l'ont chargée, et pourtant
elle est magnifique.
Elle est toujours magnifique,
mais
façon, Eva.
Elle a pas la gueule parfaite de.
Je pense que ça devrait faire un sondage intéressant sur Gameblog.
Oh là 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 là.
Bon, bref, moi je pense qu'il n'y a pas de sondage.
Un dossier
de fond, je pense que Julo
va. Une tribune.
Mais non, mais
Julo
va très mal.
Tous les lundis matin à 10h.
Donc pour toi, Eva Green, c'est un canon de beauté parfait.
Ah ben absolument, oui. Ah non, mais là, c'est. Je veux dire.
Round one.
Au sens triste du terme.
Au sens
triste du terme. C'est-à-dire une beauté totalement.
Ça va,
oui.
Un canon de beauté, quoi. Oui, pour moi, oui. Bon, bref,
bah, pour la beauté, ça vient plus des imperfections et des choses comme ça.
On va pas.
Je suis en train de te dire qu'elle est plus belle qu'une beauté parfaite. C'est ça que tu comprends pas.
Bon, enfin, bref, tu vas dire qu'elle est beauté est plus bonne que la plus bonne de tes copines.
Bah, non, justement. Oh là
là. Bon, on va arrêter.
Existentielle.
On va passer
au
hors-jeu.
N'importe quoi. Vous comprenez pas les références. Excusez-moi.
Bah, bien sûr que si. Bon, tu vas nous mettre la fièvre pendant des heures, mon petit Julien, avec ton hors-jeu personnel. Toi, c'est un manga.
Alors un manga que moi je découvre en animé, qui est sorti il y a fort longtemps, hein, il y a plus d'une dizaine d'années. Il s'agit de Fruit Basket. Donc moi là, je vais vous parler de l'animé. Il est assez court, hein, il y a 26 épisodes. C'est vraiment trop mignon.
Ah, trop... Mais de quoi ça parle?
Attends.
Ah bon,
laisse-moi mettre l'ambiance.
Bah attends, je vais te mettre de l'ambiance, moi.
Perve alerte. Alors bon, je découvre en même temps que vous les images que Poufy a choisies. Je pense que c'est un truc fait par des fans. Parce qu'il n'y a pas de perve alerte, etc. C'est une série dans laquelle, en fait, l'héroïne, qui s'appelle Toru, a perdu sa maman il y a quelques temps. Et donc, elle part et elle va être recueillie, en fait, par la famille des Soma, qu'on découvre là avec les deux jeunes garçons qui sont sur le côté gauche de votre écran, si vous êtes premium. Qui sont, en fait...
Transformistes.
Exactement. Ben, oui, c'est ça, parce qu'en fait, ils incarnent chacun... c'est l'histoire, en fait, des 12 signes du zodiaque chinois, et en vérité 13, puisqu'il y a le chat en plus. Donc chacun, en fait, quand ils prennent dans les bras ou quand ils touchent de manière physique un non-soma, ils se transforment dans leur signe zodiacal. Donc l'un en cochon, l'autre en chat, en dragon, etc. Évidemment, c'est un secret qui ne doit pas être dévoilé, mais que Toru va découvrir. Et elle est vraiment extrêmement gentille, extrêmement touchante. C'est vraiment un animé 100% japonais, avec tout ce que ça peut avoir de débilité. C'est-à-dire que vraiment au début, c'est Carole qui me l'a fait découvrir. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des moments où ça va super vite, il y a les yeux énormes, ils deviennent complètement débiles. Il parle avec des petites voix.
Façon collège foufoufou.
Collège foufoufou. Sauf qu'en vrai, au-delà de ça, il y a un fond dans chaque épisode sur le rapport à l'autre, l'acceptation, la diversité, les rapports sociaux, les liens humains.
Comme dans collège foufoufou. Hein.
Extrême, ouais, mais alors vraiment, mais vraiment beaucoup plus subtil, touchant, et vrai et juste. Mmh. C'est vraiment juste. Et si vous aimez le Japon, si vous avez l'ambiance du Japon, les croassements des corbeaux, les shoji, les petites maisons où il fait chaud à l'intérieur, les petits éviers un peu cracra.
Moi, le Japon, quand j'y pense,
ça fait penser aux éviers cracra.
Mais Julo, tu le sais que les intérieurs japonais, les intérieurs japonais sont pas toujours des antres de propreté absolue, quoi. Mmh. C'est parfois un peu beaucoup plus branquignol que ce qu'on ne croit. Et bien, c'est très bien restitué. Oui. Non, mais on est d'accord, Rudy.
Ça dépend effectivement de qui on va.
Bien sûr. Mais ils invitent rarement à domicile parce que parfois c'est le bordel chez eux.
Ah, bien
alors
souvent,
qu'à l'extérieur, ils sont toujours très bien apprêtés, toujours machin. Mmh.
Bah, beaucoup moins d'espace en fait, et donc c'est beaucoup plus compliqué voilà, de garder tout ça propre et rangé, c'est sûr.
Et puis il y a toute la campagne, l'esprit, le rapport des gens à la nature.
Vous savez comment s'appelle le
onsen.
Jacob de Lafond japonais?
Non.
Tu sais, les chiottes.
Oui, c'est les. Non. Attends, le dis pas.
Attention.
Attends. C'est un truc avec. Merde, c'est.
Ça fait très bizarre quand.
Ophion. Ce fion. Voilà, c'est ça. C'est une marque.
Ouais, bon, bref. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, tes éviers cracra.
Voilà. Enfin, bon, bref. Moi, à chaque fois que j'en regarde un, j'ai l'impression de repartir un peu au Japon et de passer un moment systématiquement, parce que effectivement les mecs sont un peu t'as le mec un peu pervers, lui il l'est pas mal Shigure, t'as le mec complètement vénère tout le temps, t'as le mec extrêmement posé, qu'on prend pour une fille, qui d'ailleurs a l'air d'être une fille, s'exprime avec une voix de fille, mais ça le complexe. T'as le petit gamin qu'on découvrira plus tard, qui en fait est pas si petit gamin que ça, mais du coup à la base elle acceptait qu'il soit avec lui dans les onsen parce que c'était un petit gamin, mais en fait il a genre un an de moins qu'elle, et quand elle les découvre j'ai dit non. Bref, c'est je regardais, il y a certaines critiques américaines qui le classent dans la catégorie des animés harem, parce qu'effectivement c'est un groupe de garçons qui accueillent une fille au sein de la maison et avec des rapports humains de drague et amoureux assez clairs, mais il n'y a rien de pervers, enfin si, il y a la perversité à la japonaise, c'est-à-dire ouais il y a des petits trucs un peu tangents, par exemple il y a des mecs qui se transforment en serpent, et le premier truc qu'il va faire c'est quand il est transformé en serpent, avant qu'elle comprenne que c'était une transformation, il va se foutre dans ses fringues. Et puis quand il va se détransformer, elle va faire c'était toi le serpent ? Oui. Et du coup et donc t'étais en train de mater, le mec va faire oui, c'était bien. Enfin tu vois des trucs comme ça, mais c'est oui, c'est un peu pervers
mais c'est jamais méchant.
Mais c'est jamais méchant
ça fait et ça ambiance passe un peu Maison Ikoku, un peu ouais, Ranma.
C'est ça, voilà, c'est ça. Genre de truc qui pourrait choquer Marlar mais qui dans la vérité choque pas grand monde et plutôt sympa. Donc bah, je vous le conseille si vous voulez avoir une petite parenthèse où vous sentez bien et en vrai ça va vous je dirais pas apprendre des choses mais en tout cas c'est des concepts de d'ouverture de diversité et de rapport à l'autre extrêmement intéressant je vous conseille Fruit Basket et alors je sais pas où c'est à voir hormis en DVD nous on les regarde en DVD
Crunchyroll non je pense le service de Netflix
Crunchyroll animé, ouais, c'est une sorte de Netflix avec que de l'animé c'est disponible sur Xbox One sur PS4 aussi je crois
sinon c'est du diffusion manga ou un truc comme ça enfin,
manga
y a
diffusion
voilà en tout cas maintenant il y a beaucoup
Déclic manga. Je crois.
Il y a beaucoup de services de streaming de toute manière.
Déclic animé.
D'animé, donc bon, ça se trouve assez facilement.
Vous savez s'il y en a un qui passe Max et Compagnie ou pas? Alors, parce que ça m'a fait penser à Max et Compagnie, l'histoire des petits secrets, tout ça.
Non, là, foutez sur le bon coin que t'achètes les DVD, je crois.
Oh, bah, pour trouver Kimmer Grand Road
sur le bon coin, on trouve tout, mec.
Ok, d'accord, j'irai sur le bon coin. Mais avant d'aller sur le bon coin, je vais vous faire part de mon hors-jeu de la semaine qui n'a rien à voir avec le manga dont on vient de parler. C'est l'Oscar du meilleur film. Qui a été donc récompensé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Spotlight, qui est un film que j'ai eu l'occasion d'aller voir un petit peu avant d'aller voir The Revenant, dont on vous a parlé dans une espèce de pastille à part. Bah, Spotlight, si tout le monde à la rédac l'avait vu, ça aurait mérité aussi, parce qu'il a franchement, il n'a pas volé hein, son Oscar du meilleur film. C'est un film absolument passionnant sur une histoire vraie et qui vraiment glace le sang. Donc ça se passe à Boston au début des années 2000, aux alentours d'ailleurs des drames du 11 septembre. Et c'est une filiale, on va dire une branche d'un journal du Massachusetts qui va enquêter à la demande de leur nouveau directeur de rédaction, qui est incarné par un Liev Schreiber absolument phénoménal, qui va leur demander d'enquêter sur des affaires de pédophilie dans le clergé local, et ils vont creuser cette histoire jusqu'à découvrir des trucs absolument complètement fous vis-à-vis de ce que l'église en elle-même a caché, vis-à-vis du nombre de prêtres accusés, en tout cas jusque-là accusés d'avoir justement procédé à des attouchements sur des jeunes enfants. Et c'est pas le film qu'on a envie de voir si on est de mauvaise humeur ou qu'on a un peu le cafard, mais par contre ça vous offre une perspective sur une histoire qui est incroyable et qui peut d'ailleurs remonter même jusqu'au Vatican au passage. Et c'est franchement pas drôle du tout, mais c'est très bien joué et c'est absolument passionnant, un petit peu à la manière de comment s'appelle ce film de Ben Affleck, Argo.
Argo, c'est
ça. C'est exactement à peu près la même chose. C'est pas un film où il y a beaucoup d'action, mais c'est assez bien rythmé pour qu'à chaque révélation, on se prenne une droite dans la gueule et on se dise waouh, là ça va quand même loin. Jusqu'à une fin.
Et c'est aussi noche actuellement.
C'est aussi noche actuellement, ouais, absolument. Spotlight. Alors je me rappelle du nom de famille du réalisateur, McCarthy, mais je ne me rappelle plus de son prénom. En tout cas, il y a Mark Ruffalo dedans, le Hulk des Avengers.
Le Gruffalo
Mark Ruffalo.
Michael Keaton.
Il y a Michael Keaton, absolument.
Qui donc, quand même, deux années consécutivement, dans un film qui gagne
l'Oscar du meilleur film.
Ouais. Comme quoi.
Michael Keaton rules.
Exactement, Rachel McAdams, c'est j'en passe.
On essaye de le recruter à Gameblog en ce moment.
Excellent.
Qui ferait tellement. Voilà.
Michael Keaton,
bah oui.
Oh, ça pourrait être sympa, absolument.
C'est un peu le Julien Lepers français, en américain.
Ouais, bah ça y est, ils se ressemblent plus trop maintenant avec l'âge, les deux.
Tu lui mets une perruque blond bouclé, c'est bon. Hein,
Ça marche plus trop. En tout cas, voilà, je vous le conseille vivement. Il a, comme je vous le dis, il a pas volé son Oscar du meilleur film, ce petit Spotlight. Je rappelle, avant de boucler cette section hors-jeu, eh bien, que si vous êtes premium, vous pouvez, si vous le désirez, et je sais que vous le désirez au plus profond de votre être, nous envoyez vous aussi vos hors-jeux hebdomadaires. N'hésitez pas, vous nous faites une petite vidéo, 3-5 minutes maximum, hein, gros maximum, que vous nous postez ensuite sur YouTube ou Dailymotion. Vous envoyez ça, eh bien, Julien, juste ici, par MP, vous lui dites « Hey Julien, tiens, j'ai mon hors-jeu de la semaine. » Eh bien, vous savez quoi ? On les intégrera dans nos pastilles hors-jeu à chaque fois.
Et ça commence dès maintenant.
Exactement.
Avec celle de Florian, voilà, qui va nous parler d'une série qu'il a beaucoup appréciée, lui.
C'est vrai ? Tu peux nous dire laquelle ?
Bah non, je laisse le mystère.
Ok, d'accord, ça marche. Bah merci en tout cas pour ces hors-jeux, encore une fois, très cultivant, très
intéressant, c'était le terme.
Cultivifiant.
Cultivifiant, voilà. Très bien.
Intéressant qui intéresse, moi.
Voilà. Passionné et donc passionnant.
Exactement, avec beaucoup de non-dits et beaucoup de gens iront les non-voir.
Et puis, bref. Et puis Eva Green dedans.
Eva Green qui est parfaite. Bref,
son nez.
Ça c'était pour la partie hors-jeu. Et maintenant, je vais vous remercier pour ce podcast, tout simplement. Merci Julien, merci Julo et merci Rudy pour ta
merci
première, t'as assuré.
Ah, merci, merci.
J'ai quand même fait un petit clin d'œil.
C'est pas trop si on aurait une deuxième.
Un clin d'œil à moitié réussi. Ah non.
En tout cas, c'était très instructif ce petit podcast sur 2016, l'année du Japon. On reviendra évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast. D'ici là, dans ce podcast, ben vous n'hésitez pas, il y a des commentaires en dessous, et vous le dites.
Et puis j'en invite à la communauté japonaise de Gameblog, parce que vous êtes très nombreux à vivre au Japon, et pas tous à Tokyo d'ailleurs, ben n'hésitez pas à nous dire là dans le forum du podcast comment vous ressentez l'évolution du marché du jeu vidéo japonais depuis les années que vous êtes au Japon. Ce sera très instructif, et puis je donne rendez-vous évidemment à ceux qui écoutent ce podcast en avant-première en tant que premium dès ce lundi à 10h, vous savez, il y a tous les lundis à 10h, maintenant il y a une tribune. Bah, la prochaine, c'est Inside Japan d'Axel Riffard qui nous parlera donc du workflow et la manière dont ça travaille au Japon. Et puis, si vous nous écoutez, parce que vous n'êtes pas premium, ça arrive aussi à des gens bien, vous inquiétez pas. Le mercredi, bah, elle est publiée depuis lundi, vous êtes passé à côté, allez la lire.
Et voilà, c'était le mot de la fin pour ce podcast.
Et devenez premium, hein, comme ça,
372. Et on se retrouve la semaine prochaine, et évidemment, d'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
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 Ciao. Thank you.